C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Alors aujourd'hui, je vous propose de retourner en enfance. Oui, on va conduire des voitures télécommandées. Tu te rappelles forcément de ces courses effrénées que tu faisais avec ton frère entre le salon et la cuisine, où tu essayais de le dépasser dans le dernier virage en passant sous le canapé, mais malheur à toi, tu trébuches sur le tapis et du coup, eh bien, ça te ralentit. Avec Tiny Turbo 15, le nouveau jeu de Yellow, de 4 Brands 4 Games et de Almahar, on va faire la course, mais sur un plateau modulable que l'on pourra donc modifier. Chaque joueur récupère son bolide, vraiment sympa, hein, d'ailleurs ces petites miniatures, et c'est parti. Il manque pas quelque chose, bah si, bah oui, bah qu'est-ce qu'on a besoin? D'une télécommande, et oui, tu as une vraie télécommande avec des touches, et là tu vas jouer au taquin pour programmer tes actions. Alors petit retour en arrière, le taquin, hein, c'est un jeu où tu faisais glisser des pièces de puzzle, hein, pour avoir le bon résultat. Mais alors, comment on joue? Eh bien, chaque début de manche, tu vas prendre ta télécommande, tu fais glisser les pièces, hein, sachant que ce qui compte, ce sont les deux lignes au milieu. Celles au-dessus et en dessous ne comptent pas pour ta programmation. Alors, quand un joueur a fini, il dit stop, c'est le premier joueur. Il se place sur la grille de départ, il prend le jeton smiley avec le plus beau sourire. Dépêchez-vous, hein, car le dernier qui est encore en train de programmer ses actions n'aura que 10 secondes. Attention départ, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Attention, n'oubliez pas de recharger vos batteries, car sinon vous ne risquez pas d'avancer. D'ailleurs, hein, c'est l'une des actions possibles en retournant vos jetons pile. Justement, parmi les actions, vous allez pouvoir avancer d'une ou deux cases en ligne droite ou en diagonale, à gauche ou à droite. Vous pourrez aussi sauter, mettre le turbo ou encore envoyer un missile. C'est possible aussi de reculer, forcément. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer les commandes suivantes. Exemple, normalement, je dois avancer de deux cases en ligne droite, mais vu que la commande précédente, eh bien, c'est le plus vert qui correspond à l'augmentation, eh bien, j'avancerai de trois cases au lieu de deux. Bon, bah, c'est pas tout, mais une fois la programmation terminée, il est temps de passer aux choses sérieuses et de s'expliquer sur la piste. Enfin, c'est celui, hein, qui est le plus beau jeton sourire qui commence. Chaque joueur, à tour de rôle, va devoir résoudre les commandes de la deuxième et troisième ligne de sa manette pour progresser sur la piste. Mais ne croyez pas, hein, c'est une longue ligne droite. Non, 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 il va falloir éviter les obstacles. Hein. Comme quand vous étiez enfant, vous pourrez subir des dégâts, les tapis vont vous ralentir, les flats d'eau vont vous faire glisser dans l'autre sens. Il y a aussi des choses infranchissables, comme une pile de livres, justement. Les piles, elles ne sont pas éternelles. Hein. Dès que vous subissez un dégât, vous devez retourner votre jeton pile batterie sur vide. Vous en avez trois. Quand les trois sont vides, eh bien, vous ne pouvez plus avancer. Il faudra penser à recharger. Et pour gagner, on fait comment? Bah, faut dépasser la ligne d'arrivée. C'est logique, non? Bah, si jamais à la fin de la manche, personne n'est arrivé, on reprend les étapes du début. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Quand vous choisissez vos bolides, au début du jeu, ils ont des effets particuliers. Sonic Fish, hein, pourra glisser plus loin, par exemple. Au total, c'est 8 voitures que vous pourrez conduire. Cette idée de taquin est vraiment sympa pour la partie programmation. Alors oui, il faut se dépêcher, hein, pour partir en premier, mais il faut bien réfléchir aux 8 actions que vous allez faire. Un mur est tellement vite arrivé. Tiny Turbo Cars est un jeu de programmation et de course qui plaira aux enfants, mais aussi aux parents. Alors je n'ai qu'une chose à vous dire. À vos marques, prêts, partez! Justement, d'ici quelques instants, on va retrouver Guillaume de Trip Track pour parler des Trip Track d'or.
On n'a pas les tours.
C'est ludique. L'invité de la semaine.
Et il y a une semaine tout pile, c'était les Trip Track d'or. Alors pour nous en parler et faire le débrief, je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume.
Salutations amigo, salutations ludiques à tous. Comment vas-tu bien en ce début de semaine?
Eh ben ça va bien, et toi? Déjà, une petite chose, est-ce que ton portable est bien chargé?
Ah, tu l'as fait avant moi, tu me coupes l'herbe sous le pied. J'avais prévu de te dire en tout début que tout allait bien se passer, que j'étais à 100%, j'avais une batterie de secours et j'avais téléphoné pour faire en sorte que ma consommation d'électricité soit la plus faible possible. J'avais tout prévu.
Tout va bien. Il y a une semaine, donc lundi dernier, c'était les Trip Track d'or. Alors avant de rentrer dans le classement, est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu aurais fait le même, toi?
Alors, non, je n'aurais pas fait le même. Et c'est tant mieux quelque part, parce que les Trip Track d'or, l'objectif est justement d'amener au maximum. Et là, on était presque à un millier de personnes qui ont participé. Un petit peu moins au total, mais si on prend les différentes listes, on atteint ce millier. Ouais. Et le but du jeu, c'est vraiment que ce soit les joueuses, les joueurs qui amènent ces classements-là parmi une liste qui a été faite en prenant les jeux qui ont été le plus notés parmi les jeux sortis dans les entre 12 et 18 derniers mois, puisque c'est un petit peu glissant, hein, pour laisser une chance à tout le monde. Et donc, du coup, oui, ça me surprend, et tant mieux, parce que ça veut dire que la façon de voir les jeux quand on est le nez dedans tout au long de l'année, Ça nous amène parfois à voir avec un peu un prisme, entre guillemets, prisme forcément un peu déformant. Et d'un autre côté, on a les joueurs et les joueuses qui, eux, du coup, ils jouent, et eux le voient avec leur prisme qui est juste de s'amuser. Et donc, du coup, oui, le classement m'a surpris, et c'est tant mieux.
Alors, il n'y a aucun jeu d'ambiance dans les 10 premiers, c'était pas la bonne année, finalement, des jeux d'ambiance, les party games avec le Covid, c'est compliqué.
Alors en fait, je pense que c'est le contraire. Ça a été une très très bonne année pour les jeux d'ambiance, hein, que ce soit So Clover, Top 10, j'en passe et des meilleurs. C'est juste que là, on parlait de prisme déformant et Trick Track en est un. Il faut pas en avoir peur. Trick Track a un passé, a un historique de jeux que à l'époque on classait de jeux à l'allemande, c'est-à-dire un peu Eurogame, les jeux de gestion. Et cette partie un peu prégnante est encore visible sur le site. Donc du coup, les jeux d'ambiance qui sont des jeux, excusez-moi pour l'expression, un petit peu plus tout public, et donc un public qui n'est pas forcément le public qui va voter sur Trick Track, parce que lui, il fait du jeu d'ambiance pour s'amuser et tout, c'est pas forcément des joueurs aficionados qui se réunissent 6 fois par semaine pour essayer des nouveautés. Donc forcément, ces jeux sont un petit peu moins plébiscités sur Trick Track, alors qu'on sait très bien par ailleurs qu'ils ont très bien marché.
Oui.
Donc c'est pas la mauvaise année. C'est juste que ce n'est peut-être pas pour les Trick Track d'or le meilleur endroit. Alors par contre, dans les jeux famille et tout, on retrouve des jeux d'ambiance et certains qui se sont glissés. Tu vois, je pense rapidement à Mot Malin, par exemple,
oui.
Lucky Numbers, Happy City. On a des jeux qui restent des jeux d'ambiance. Mais effectivement, pour les jeux purement, on va dire, un peu ambiance, comme on peut l'entendre, c'est-à-dire avec éclat de rire autour de la table et co, ceux-là sont un petit peu moins représentés.
Alors, tu parlais justement par rapport aux jeux Expert, Eurogame, par rapport à Trick Track. Du coup, il n'y a pas de jeux enfants non plus dans le top 10. C'est la même raison?
Alors, dans le top 10, effectivement, on a du mal à voir les jeux enfants. Celui qui a gagné dans la liste enfants, donc il y a une première sélection, un premier vote qui se fait liste par liste, thématique par thématique. Et donc là cette année, on avait justement les Trick Track d'or enfants, famille, duo de joueurs, donc initié et expert. Et celui qui l'a emporté dans la catégorie enfant, c'est-à-dire Zombie Teens Evolution, a réussi quand même à se dresser finalement assez haut, hein, quelque part, puisque il est monté à la 14e place, je crois,
ouais,
sur la liste de 22. Donc ça veut dire qu'effectivement, il a quand même réussi à aller loin. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que en son temps, une déclinaison encore plus jeune, Zombie Kids Evolution, n'avait pas été aussi loin. Ce qui fait qu'on se rend effectivement compte que le public qui a joué, le fait que ce soit un jeu pour un peu plus grand et donc avec un petit peu plus de challenge, ça a touché les joueurs et les joueuses de Trick Track et ça l'a amené un petit peu plus loin. Mais effectivement, pas dans les 10 premiers, tu as tout à fait raison.
Alors le jeu enfant, on le voit, hein, de toute façon, il progresse de plus en plus. C'est comme d'ailleurs le jeu de joueurs, avec les différents confinements, on a l'impression que le jeu de joueurs, il a pris une place importante dans l'esprit ludique des joueurs.
Oui, tout à fait. Ça en est même à un point où parfois certains éditeurs forcent un petit peu le trait. C'est-à-dire qu'on a des jeux qui finalement pourraient être marqués 3, 4, 5 joueurs en fonction du nombre de joueurs, 3, 4, 5.
Ouais.
Et ils sont marqués, ces jeux-là sont marqués à 2, souvent avec potentiellement une variante, un joueur fantôme, comme d'ailleurs dans le cas des jeux solo où on essaye de faire en sorte de tirer un petit peu la mécanique du jeu pour l'adapter à ces configurations qui sont effectivement des configurations demandées, la configuration deux joueurs, la configuration solo, quand bien même n'en déplaise à ceux qui disent « mais c'est plus un jeu de société quand on joue tout seul », je me porte un petit peu en faux par rapport à ça, c'est-à-dire que souvent on joue à un jeu de société mais on n'a pas suffisamment de joueurs, donc du coup on se rabat sur un jeu solo pour quand même faire du jeu de société et non pas du jeu sur ordinateur. Mais il n'empêche qu'effectivement ces configurations-là étant demandées, les éditeurs se penchent de plus en plus à le proposer, alors soit sur des jeux qui leur sont dédiés, donc jeux duo ou jeux solo, soit sur des jeux dont une variante ou un module permet d'y jouer dans ces configurations.
Alors on a Bombits, hein, qui classe 2 jeux dans le top 10, même dans le top 6, et c'est logique pour toi ?
Alors, je dirais oui, et d'autant plus qu'on a pu réaliser avec eux en co-réalisation un reportage sur cette maison d'édition. Donc, je les connais mieux maintenant que j'ai appris un petit peu comment leur ligne éditoriale se développe. Et je pense qu'ils récoltent les efforts qu'ils ont faits sur cette ligne éditoriale toutes ces dernières années. Ils se sont tenus fermement, même parfois contre vents et marées, en disant on va sortir peu de jeux, mais on va les sortir en les travaillant sur la longueur, en les travaillant en termes de communication, puis en termes de démonstration. Et donc du coup, je crois qu'ils récoltent quelque part avec ces nombreux jeux dans le top 10, ils récoltent, et d'ailleurs dont un qui au final est quand même sur le podium, sans dévoiler trop tôt. Et vraiment, je pense que de ce côté-là, c'est un bon message, et puis bravo à Bombix aussi d'ailleurs, parce que ça montre aussi que les jeux méritent d'être accompagnés et que une flopée de nouveautés qui passe, ça n'aidera pas forcément des jeux, parfois de fort bons jeux, à s'installer et à trouver le public. Donc là, pour le coup, Bombix fait carton plein.
Il y a un travail d'édition énorme chez Bombix, on le voit sur tous leurs jeux, et c'est pas fini avec Petit Peuple qui va arriver, et puis l'année prochaine, il y aura un autre aussi où il y a eu un gros travail d'édition dans l'espace.
Oui, tout à fait.
Yellow, dans le top 22, ils en classent 5. C'est vraiment un des acteurs de jeu le plus important aujourd'hui.
Alors, Yellow, il a un double. Yellow est une maison d'édition et en même temps un éditeur qui localise des jeux. Cette double casquette, qui n'est pas du tout quelque chose de nouveau, on l'avait déjà vu, et je pourrais en parler assez facilement avec Philosophia à l'époque, etc. Ça permet deux choses. Ça permet d'avoir une volonté éditoriale et de proposer des jeux en propre, et donc y compris éventuellement en faisant quelques expérimentations, en disant « Ah tiens, on sentirait que les joueuses et les joueurs vont par là, est-ce qu'on pourrait proposer le nôtre, etc. etc. » Et puis, en localisant, c'est-à-dire en allant chercher des jeux chez des éditeurs étrangers, ça permet aussi de montrer qu'ils sont à l'écoute et qu'ils ont, entre guillemets, pas forcément un coup d'avance, mais en termes de jeu, on pourrait dire un peu comme ça, pour aller chercher les bons jeux qui vont plaire et dont les joueurs vont se délecter en disant « Ah, génial, je l'ai dans la langue de Molière et non pas forcément celle de Shakespeare & Co. » Cette double casquette-là, ça amène surtout sur un site comme TrickTrack, par exemple, dont on parlait au début par rapport à ce prisme-là, d'être assez intéressant parce que forcément, il y a le côté éditeur et il y a le côté chouette sélectionneur. Et on voit bien dans le domaine du sport combien on peut causer facilement justement du travail des sélectionneurs en disant « il a pris un tel, j'aurais parié sur un tel, etc. etc. » Et dans le monde du jeu, c'est la même chose. Les joueurs et les joueuses, aficionados du domaine, qui donc suivent un petit peu ça et puis commentent un petit peu tout ça, sont ravis de voir un tel ou un tel avoir choisi celui-là. Il y en a un autre qui, en ce moment, est en train de monter, c'est Super Meeple. Super Meeple qui, justement, va chercher, ou Funforge, qui vont chercher des jeux en disant « Ouais, si, il y a quand même du public pour ce jeu-là. » Effectivement, c'est peut-être pas forcément le plus populaire parce que Funforge ressort dernièrement Alerto. Alerto, c'est du Uwe Rosenberg, c'est du gros jeu, c'est lourd. Oui, peut-être que ça va faire 2000, 3000, 4000 ventes en France, ce qui est, on est loin des 15 000 ou même 80 000 pour les gros succès. Mais il n'empêche qu'en termes d'image de marque et en termes de représentation, c'est très bon pour l'image de l'éditeur.
Alors, hormis l'an dernier, c'est souvent un gros jeu qui arrive en premier. L'année dernière, c'est Nidavellir qui avait pris la première place.
Oui.
Cette année, on retourne dans le gros jeu. Il y en avait. Alors, donc, il y a Codex Naturalis qui prend la troisième place.
Oui. Médaille de bronze.
Médaille de bronze. Il y a la médaille en chocolat aussi.
Alors, celle-là, moi, tu vois, tu parlais de surprise en début d'émission. Moi, c'est ma plus grosse surprise. Seven Wonders dans sa déclinaison architecte d'Antoine Bozat chez Repo Production, je m'attendais à ce qu'il, entre guillemets, permettez-moi l'expression, déchire tout. Et effectivement, il est sorti récemment, donc peut-être qu'avec un peu de temps, c'est l'avantage et ou l'inconvénient d'un classement un petit peu à un instant I, je m'attendais à ce qu'il aille beaucoup plus loin. Il arrive sur la quatrième place, donc Trick Track Chocolat. mais je m'attendais à ce qu'il aille beaucoup plus loin. On est sur un jeu, là, pour le coup, hyper familial, et c'est là où je trouve qu'Antoine Boza et Repos Productions ont fait un travail de dingue, avoir réussi à casser. Je ne dis pas que ça va automatiquement plaire à tout le monde. Hein. Je défends l'idée qu'aucun jeu ne puisse être universel, puisqu'on est tous, nous, humains, différents les uns des autres. Mais Seven Wonders Architect, ils ont réussi à casser un petit peu, en termes de game design, ce qu'était Seven Wonders, pour le rendre accessible à un encore plus grand nombre. Alors certains vont dire, ben, il n'y avait pas besoin parce qu'il n'était pas si complexe que ça. Je trouve que c'est quand même un super travail éditorial, mais effectivement, quatrième seulement.
C'est intergénérationnel, on peut y jouer avec les grands-parents, on peut y jouer avec les enfants. C'est, non, c'est vrai, il est vraiment, vraiment bien, et il est arrivé dans le plus grand secret en plus. Hein.
Voilà, c'est... et du coup... Pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, de plus en plus, moi je le présente de la façon suivante, tu sais piocher une carte, tu sais jouer. C'est très bon comme petit gimmick pour réussir à récupérer quelqu'un en disant « bah oui, piocher une carte, c'est pas très difficile ». Et le jeu, c'est juste ça, si j'arrive à piocher une carte, je saurai jouer.
Alors donc les deux premiers, après on s'en doutait forcément qui allait arriver dans les deux premiers, donc c'était soit Narak, soit Dune Imperium, donc... Ouais. C'est Dune Imperium. On dit souvent que les jeux à licence, c'est compliqué à exploiter, mais là, c'est parfait, quoi.
Ben, en l'occurrence, c'est quelque chose qui s'est beaucoup dit. C'est comme les jeux de sport ou les jeux de course ont du mal à percer. Les jeux à licence, c'est souvent un petit peu défavorable en la faveur du jeu parce que, en fait, on sent une espèce d'exploitation commerciale de la licence avec un ludique, qui est assez peu présent. C'est de moins en moins vrai puisque les éditeurs, y compris ceux qui sont un petit peu plus loin, on va dire, du côté joueur et du côté joueuse, donc qui sont plutôt du côté marketing et commercial, et c'est pas un gros mot, ils font de plus en plus attention quand même. Les game designers sont de plus en plus alertes sur justement cet ensemble de mécaniques, ces mécanismes de jeu qui peuvent être proposés aux joueurs. Donc c'est de moins en moins vrai, mais malgré tout, la tendance, l'image un petit peu reste tenace. Dune Imperium, en l'occurrence, entre le retour de ce film, hein, autour de Herbert, de son roman et tout, entre l'idée qui avait été laissée dans l'esprit des joueurs et des joueuses les plus anciens avec l'ancien Dune, qui avait été justement un jeu, alors certes maintenant qui est un petit peu daté, mais dont la licence avait été très bien travaillée, on l'attendait quelque part avec impatience. Et du coup, en Thundergriff Game et Legendary, donc traduit, localisé par Lucky Duck Game, on fait un boulot qui marche super bien, aussi bien dans la modernité des mécanismes qui ont été choisis que dans le traitement du thème. Donc oui, tu as raison, c'est un mariage quasi parfait et ça se voit en l'occurrence. Dune Imperium est parti, hein, il finit avec 3355 points, là où les ruines perdues de Narak chez Yellow qui venait de chez CGE fait 2900 points. Donc effectivement, ce mariage-là, peut-être parce que le film, peut-être parce que la licence, peut-être parce que le jeu en lui-même, peu importe, a tout à fait touché les joueurs et les joueuses. Ouais.
Est-ce qu'avoir un trick trader, ça met en avant encore plus le jeu au niveau des ventes ?
Si je suis complètement honnête, je devrais répondre, j'espère que oui, mais pas forcément. Et je vais être honnête, je vais donc répondre, j'espère que oui, mais pas forcément. Pourquoi ? Parce que on pourrait tout à fait dire, et c'est ce que je disais un petit peu aussi au début, TrickTrack, c'est une communauté un petit peu de joueurs et de joueuses avec des gens qui se tiennent très au courant de l'économie du jeu, des sorties, de la façon dont ça fonctionne, qui veulent un peu tout savoir. Et puis à la périphérie, quelques joueuses et joueurs un petit peu plus nombreux, mais qui, elles, papillonnent pour avoir quelques infos, éventuellement choisir un jeu, voilà, etc. Et ces gens-là sont des joueurs et des joueuses qui sont plutôt au courant. Ouais. Et donc, du coup, ils ont gagné le Trick Track d'or, mais Dune Imperium, bah, ils le connaissent déjà, ou peu ou prou, même si on a quelques commentaires sur les forums et par rapport à la news ou les vidéos pour dire « Ah ben, c'en est un ou c'en est quelques-uns que je n'ai pas joué, je vais aller regarder de plus près puisque quelque part, c'est validé par un grand nombre. » Donc, ça peut avoir un impact. Ça a d'autant plus, par contre, un impact en termes d'outils de communication lorsqu'il est repris par l'éditeur. C'est-à-dire que si effectivement l'éditeur l'utilise pour communiquer autour de son jeu, alors il attire l'attention de joueurs et de joueuses qui ne connaissent pas forcément Trick Track, mais pour qui ça va avoir le même effet. C'est-à-dire, ah tiens, il y a un prix, quelle est la portée, quelle est la légitimité de ce prix, allons se renseigner, et si c'est le cas, si ça me convainc, alors ça veut dire que le jeu a quelque chose à proposer et donc je vais le regarder. Et là, oui, il y aura un impact. En l'occurrence, tu vois, on nous a demandé les médailles, les logos des médailles, et donc certainement que ces logos de ces médailles, tric-trac de bronze, argent et or, se retrouveront soit sur le film plastique qui entoure la boîte pour ouais. attirer l'attention, soit peut-être même, on l'a déjà vu par exemple, on parlait de Seven Wonders a été le premier à mettre le logo Trick-Track d'or directement sur la boîte avec les autres prix, donc c'est que ça a dû avoir aussi une importance, en tout cas pour l'éditeur.
Eh ben merci beaucoup Guillaume d'avoir été sur Millennium, on approche de 10h, il va falloir que je rende l'antenne, je te dis à très très bientôt. Enfin,
avec grand plaisir, et tu as vu, cette fois je n'ai pas coupé avant l'heure.
C'est ça, c'est moi qui vais couper par contre. Salut Guillaume.
Continuez bien à tous, amusez-vous.
Salut.
Bien.